Bon, on va commencer tranquillement avant que la personne arrive. Donc, je suis très contente d'accueillir ce soir Monsieur Feuerhahn. Je disais qu'en effet, on citait le nom de personnes qui sont déjà venues à l'Espace Mendès France, en particulier, peut-être les avez-vous entendus, Catherine et Raphaël Larrère, qui sont intervenus dans le cadre des journées que nous avons organisées sur l'environnement. Donc, je disais à Monsieur Feuerhahn, lui n'était pas encore venu, donc c'est l'occasion d'écouter ces jeunes chercheurs. Voilà, vous êtes jeunes par rapport à d'autres personnes du Centre Coiré. Vous êtes de formation philosophique. Vous avez travaillé sur les savoirs, sur la transmission des savoirs. Et donc, vous avez écrit un ouvrage. Vous êtes donc directeur adjoint du Centre Coiré, qui est un centre à Paris. Bon, ça fait 23 ans que je travaille à l'Espace Mendès France, donc je ne vais pas faire l'ancienne combattante. Mais bon, c'est le centre où on puise, si je puis dire, tous les cerveaux de la philosophie, de l'histoire des sciences. Hein. Si vous regardez le site du centre Coiré, vous verrez toutes les disciplines, les séminaires, etc., où les gens peuvent aller d'ailleurs écouter les conférences gratuitement. Et c'est vraiment très, très passionnant. Donc, vous avez écrit un ouvrage collectif. Donc, c'est le thème de votre conférence de ce soir qui s'intitule. Donc, vous allez nous expliquer justement, votre résumé l'explique bien, ce que c'est que les humanités environnementales, enquête et contre-enquête. Donc, c'est un livre qui est apparu le 23 février aux éditions de la Sorbonne. Et vous l'avez écrit en collaboration avec Guillaume Blanc et puis Élise de Meneler, mais il y a aussi d'autres contributeurs. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir bravé le froid, d'être venu de Paris à Poitiers. C'est 1h30, mais enfin bon, on est toujours en admiration devant le fait que les gens quittent leur travail pour venir donner une conférence chez nous. Moi, je trouve qu'on les remercie pas assez, donc on vous remercie, nous vous remercions tous et les auditeurs aussi. Donc c'est avec un plaisir, grand plaisir que nous vous écoutons, Monsieur Feuerhahn.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour l'accueil et pour l'invitation. Oui, il faut que j'explique un petit peu le projet. Alors effectivement, ce qui est très important à noter, c'est ce dont je voulais vous parler, est une enquête qui est une enquête collective et volontairement collective, parce que ça nous semblait ne pas avoir de sens que de mener ce type d'enquête seule. Enquête collective parce que... comme vous le verrez, il s'agit d'une enquête d'histoire des sciences ou des savoirs qui brasse un grand nombre de disciplines et qui traite de sujets qui précisément posent la question de l'interdisciplinarité. Donc, malgré tous nos efforts, nous ne sommes jamais assez interdisciplinaires pour pouvoir faire le travail nous-mêmes. Et puis, comme il faut à la fois être, quand on est historien des sciences, connaître la matière dont on traite et être capable de prendre de la distance vis-à-vis d'elle pour essayer d'analyser, voir comment est-ce qu'elle se constitue, se transforme, comment les cartes sont rebattues périodiquement. Évidemment, c'est pour ça que nous avons fait ce travail, dirigé ce travail à trois. Au départ, c'était un séminaire déjà interdisciplinaire puisqu'il était à cheval entre l'École des hautes études en sciences sociales et le Muséum national d'histoire naturelle, puisque ça fait partie des deux tutelles que nous avons au Centre Coiré, et avec des gens, avec des collègues qui viennent pour certains des ethnosciences, pour d'autres de l'histoire. Et donc, l'idée, c'était ça, de travailler. Et puis, donc, moi qui suis plus spécifiquement historien des sciences. Et donc, l'idée était de prendre comme objet une matière qui est très neuve, très nouvelle, qui nous interrogeait un peu sur nos pratiques. Chacun venions, enfin, travaillons sur les questions d'environnement de manière très distincte. Hein. Guillaume Blanc est un spécialiste de l'histoire environnementale de l'Éthiopie, du Canada et de la France, et notamment des parcs nationaux, et des enjeux politiques du conservatisme, on va dire, du conservatisme environnemental. Conservationnisme environnemental, pardon. Et puis, Élise de Melenard a travaillé donc aussi sur un terrain éthiopien au départ, mais en ethnosciences, donc pour travailler sur les catégories indigènes de classement de la nature. Et puis, travaille aussi sur les réseaux de semenciers et de semences en France désormais. Donc ça fait des objets assez variés. Donc moi, je travaille plutôt actuellement sur les catégories mobilisées pour essayer de penser ce que certains nomment environnement, d'autres nomment milieu, d'autres nomment nature, etc. Je pourrais vous en dire un mot après, mais je ne vais pas centrer mon propos là-dessus, mais je pourrais y revenir dans les questions si ça vous intéresse. Et donc, voilà, donc l'idée, c'était vraiment essayer de mutualiser un peu nos forces. Et puis, comme ça ne suffit pas encore, et que, comme vous le verrez, ce champ qu'on appelle, donc, qui se dénomme actuellement depuis peu, depuis 5-6 ans, Environmental Humanities en anglais et en humanité environnementale en France, étant donné que c'est un champ qui regroupe un grand nombre de disciplines dont nous n'étions pas non plus spécialistes, nous avons demandé à toute une série de collègues de venir les présenter. Donc c'était au départ, l'idée c'était d'avoir un retour réflexif et critique et d'avoir un peu de distance vis-à-vis d'un certain nombre de propositions qui étaient faites dans ce qu'on appelle le champ des humanités environnementales. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais bon, on ne va pas avoir la force de mener ce séminaire éternellement. Et on avait chaque année des étudiants qui venaient d'horizons très divers, d'agronomie, de sociologie, d'histoire, d'anthropologie, des savoirs naturalistes, d'écologie, etc. Donc les séminaires eux-mêmes étaient un lieu très intéressant pour ça, pour nous, très stimulant, qui nous mettait un peu au défi de comprendre l'objet que nous essayons d'appréhender. Et ensuite, sur cette base, donc on s'est dit, bon, il faut laisser une trace, visiblement il y a une lacune, il y a un besoin. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Mais déjà, il faut que je revienne un petit peu sur cette labellisation humanité environnementale. En gros, c'est une labellisation qui fait suite, puisque c'est plutôt récent, qui fait suite à toute une série de labels antérieurs, d'étiquetages savants antérieurs, écocritique, sociologie de l'environnement, économie écologique, théorie politique verte, etc., anthropologie de la nature, depuis une trentaine, 30 ou 40 années, ça dépend justement des disciplines, hein, toutes n'ont pas du tout commencé au même moment, ont émergé et ont essayé de rebattre un peu les cartes des habitudes de chacune de ces disciplines. Donc c'est d'abord quelque chose qui naît dans chacune de ces disciplines et qui essaye de s'affronter à un nouvel objet, l'environnement, a priori plutôt objet prioritairement des savoirs écologiques, donc du côté des sciences de la nature. Et donc là, le renouvellement venait de là, c'est-à-dire que brusquement, des gens qui venaient de ce qu'on appelle depuis les années 70 les sciences humaines et sociales s'appropriaient l'objet et essayaient de le penser et de voir en quoi surtout cet objet pouvait modifier leur manière de penser, leur manière d'appréhender les choses, leur manière d'arpenter leur terrain, de les conceptualiser, etc. Donc une sorte de défi pour la pensée. Évidemment, j'y reviendrai, hein, loin, qui n'était pas du tout indépendant de tout un questionnement environnemental public, hein, lors du questionnaire public et puis de l'interrogation sur voilà, qu'est-ce qu'on vit actuellement, qu'est-ce que c'est que cette crise environnementale et comment est-ce qu'on essaye de la penser, avec évidemment l'idée que derrière ça, que ce sont des objets qui ne sont pas entièrement naturels ou pas entièrement indépendant de l'homme, mais bien au contraire, que si crise environnementale il y a, c'est aussi et d'abord parce qu'il y a politique environnementale, parce qu'il y a économie et effet de l'économie et des pratiques économiques sur l'environnement, etc. Donc c'est évidemment corrélatif d'un questionnement sur les responsabilités humaines, sociales, politiques, culturelles, relative à la dégradation de l'environnement et à la crise environnementale qu'on vit. Donc voilà, ça c'est comment, si vous voulez, déjà dans un premier temps, depuis une quarantaine d'années, dans ces domaines-là, ont émergé ces nouvelles labellisations qui ne recouvrent pas les mêmes questionnements, qui sont très liés à des ce qu'on appellerait de nos jours, par un anglicisme, des agendas disciplinaires, c'est-à-dire des habitudes de pensée. Et qui font qu'on aborde la question pas de la même manière en économie, en sciences politiques, etc. Donc, la question ne se pose pas de la même manière. Et puis, de manière plus récente, donc depuis en gros 6-7 ans à peu près, a émergé cet étiquetage ou cette labellisation plus générique des humanités environnementales, donc d'abord en anglais, Environmental Humanities, qui donc est une métacatégorie, puisque là on n'est plus à l'échelle des disciplines, mais à l'échelle d'une, ce qu'on appelle une métadiscipline, c'est-à-dire un ensemble de sciences, et qui a vocation donc à traiter l'objet de manière globale, c'est-à-dire réunir toutes ces tentatives très variées, diverses, contradictoires, conflictuelles, tout ce que vous voulez, controversées, de ces différentes sciences. Donc l'idée, c'est de, voilà, d'un certain nombre de porteurs, ça a été d'essayer de rendre compte de ça, et ça a tout de suite pris, je vous dirai après où et comment, etc., un peu plus précisément, mais ça a tout de suite pris, ça s'est traduit par des créations institutionnelles, par des financements, par des réflexions sur des nouvelles pratiques savantes, des nouvelles théories savantes, toutes ayant pour objectif de rebattre les cartes de la frontière entre sciences de l'homme et sciences de la nature. Donc l'idée, c'est d'interroger cette frontière. Et d'où ce qui apparaît un peu comme un oxymore, hein, environmental humanities, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que les humanities, c'est-à-dire cette partie des sciences de l'homme qui est peut-être la plus liée aux sciences de l'érudition, qui est aux sciences philologiques, etc., aux sciences littéraires, aurait à voir avec cette question de l'environnement? Ça s'est traduit notamment en France. Alors ça s'est traduit d'abord dans le monde anglo-saxon par la création d'une revue internationale qui s'appelle Environmental Humanities, créée en 2012. Et puis en France, l'année suivante, il y a un portail des humanités environnementales que je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse, qui a été créé et qui est régulièrement alimenté avec toute une série d'informations, de sources, de ressources bibliographiques, de liens, etc. Et donc... Donc ça, c'est comment on semblait assister à une sorte de passage d'une émergence variée dans différentes disciplines à celle d'une labellisation plus générique. Alors évidemment, il faut essayer de comprendre un peu mieux ce que ça recouvre et pourquoi et comment les choses sont pensées. Et si on regarde, à titre d'observatoire, la revue elle-même, Environmental Humanities, ce qu'on voit assez vite, c'est que, d'abord, premier point important, elle est fondée en Australie. Et ça, c'est un point qui nous est apparu assez rapidement comme un point important. C'est-à-dire que, en gros, Environmental Humanities trace une carte des réflexions intellectuelles qui n'est pas la même ou qui n'est pas exactement superposable à la carte habituelle des développements intellectuels. C'est-à-dire qu'on est certes dans le monde anglo-saxon, mais on n'est pas aux États-Unis. Et on est dans un espace où, traditionnellement, on a une réflexion importante sur la question de l'environnement. Les premiers projets de ce qu'on appelle environmental ethic dans les années 70 viennent d'Australie. Et c'est sur ce lieu... dans ces cadres-là que les premières réflexions ont été créées. C'est dans le cadre d'une revue qui s'appelait Australian Humanities Review qu'on a créé pour la première fois une rubrique qui s'appelait Ecological Humanities et qu'à partir de 2004 on a essayé d'alimenter et dans laquelle l'idée était précisément de faire droit à un nouveau type d'humanité, de sciences humaines si vous préférez. Et alors, ce qui est justement intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça se fait donc dans certaines institutions qui sont ces School of Humanities, typiques du monde anglo-saxon, pour le coup, plus génériquement, qui sont des lieux où on est formé avant ce qu'on appellerait en France la fin de la licence, avant le master, où donc là où chez nous, nous sommes formés de manière plutôt disciplinaire dès le départ, ils sont formés de manière plutôt pluridisciplinaire, mais avec une réserve qui est que la formation se fait non pas de manière pluridisciplinaire, mais de manière par groupe de disciplines. Donc on a les humanities, les social sciences, et puis les sciences, et au sein des sciences, on peut avoir des regroupements, mais en tout cas, voilà comment ça se distribue un peu. Et c'est donc au sein de ces humanities, donc a priori ce qui était le plus éloigné des sciences de la nature, qu'émerge ce projet. Et voilà comment la revue présente le projet. Elle dit, dans son premier éditorial, elle dit « La revue publie des études interdisciplinaires remarquables qui mettent les disciplines des sciences humaines en dialogue les unes avec les autres et avec les sciences de la nature et les sciences sociales sur des thématiques environnementales. Environmental Humanities met particulièrement l'accent sur la publication de la meilleure recherche interdisciplinaire. Pour cela, la revue se donne pour mission de 1. Publier des articles interdisciplinaires qui ne s'inscrivent pas dans les sous-disciplines environnementales bien établies et 2. De publier les contributions de qualité émanant de tous ces champs de façon à ce qu'elles touchent un plus large lectorat. » Donc il y a plusieurs idées. D'abord, c'est une affaire très académique, hein, c'est une affaire d'universitaires venant de cet espace qui s'appelle les Humanities, et puis avec un projet qui est délibérément d'emblée interdisciplinaire, avec un diagnostic à la base qui est que, en gros, il existe certes des recherches par-ci par-là, mais il n'y a pas de visibilité générale, donc un problème de visibilité générale et d'échanges entre ces diverses personnes qui, tantôt économistes, tantôt historiens, puisque l'histoire environnementale est une des premières disciplines à émerger dans les années 70. Voilà, d'où le besoin de redessiner le paysage des revues, des cadres académiques, etc. Et il y a aussi une adresse à l'attention des biologistes, évidemment, et parmi eux, évidemment, des écologues, qui est de dire il faut que vous preniez au sérieux les environmental humanities. Alors donc, sur cette base, l'idée, c'était donc d'essayer de saisir, pour nous, l'émergence intellectuelle, institutionnelle de ces domaines d'études et de la dynamique qui était sous-jacente à cela. Alors, comment procéder? Je vous dis en deux mots un peu comment nous, on a réfléchi à la question, comment on a essayé de la traiter. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de références, d'emprunts entre ces domaines, entre d'une discipline à l'autre. Et donc des références à des auteurs, à des références canoniques, à des idées, à des débats. Et donc, ce qui nous a semblé important, c'est à la fois de montrer leur ancrage dans une discipline précise et le sens qu'elles avaient au départ, et puis en même temps, comment elles circulent et comment elles prennent un autre sens quand elles sont mobilisées ailleurs. Je vous donnerai quelques exemples après. Donc, pour surtout ne pas écraser la pluralité des trajectoires, parce que c'était un risque, évidemment, rétrospectif, de se dire, bon, ben voilà, maintenant, ça existe, les environmental humanities. Et donc, il n'y a plus tellement un besoin de s'intéresser aux logiques complexes qui existaient auparavant. En fait, les logiques complexes qui existaient auparavant continuent à exister. Ça, c'est une proposition générique qui peut être contestée aussi et qui l'est par certains. Et donc, il y a une complexité du débat, etc. Et l'absence de visibilité par les acteurs eux-mêmes, vraiment, parfois, de la complexité de ce débat. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une histoire sociale et culturelle des sciences, des pratiques scientifiques, et pas de faire simplement une histoire des idées. Évidemment que les projets intellectuels, les théorisations, les réflexions épistémologiques, etc., sont importantes, mais c'était pas le projet. Le projet n'était pas, disons, de découpler cette dimension-là de ces ancrages sociaux, économiques, institutionnels, etc. Au contraire, d'essayer de les comprendre. Alors, en fait, on s'est très vite rendu compte que quand on arrive sur ce terrain, le terrain, il est déjà arpenté, il est déjà balisé, et on pourrait très facilement emprunter le terrain qui existe. C'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes, bah, ils ont déjà écrit leur histoire avant qu'on arrive. Hein. C'est toujours le cas, à vrai dire. L'historien des sciences arrive toujours trop tard, toujours après coup. Donc, il a un problème, c'est qu'il a affaire à un récit. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il fait du discours qu'ont tenu les acteurs? Est-ce qu'il, simplement, il le répète? Bon, ce travail n'est pas très intéressant à ce niveau-là. Ou est-ce qu'il essaie de le mettre un peu en perspective et d'essayer de voir comment il s'est construit et quelle était sa vocation? Alors, en gros, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'appelle ce grand récit proposé par les promoteurs des humanités environnementales. Grand récit qui s'organise notamment à travers l'usage d'une catégorie importante dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la catégorie d'Anthropocène, qui a été créée au début des années 2000 par un géologue, Paul Crutzen, avec l'idée que... Alors la question de la datation de le début de cette anthropocène est très variable, mais en tout cas l'idée qu'à un moment entre le 18e et nos jours, à un moment on aurait assisté à la fin de ce que les géologues appellent l'Holocène, et on serait entré dans l'Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle ère géologique où l'homme aurait acquis une puissance de transformation de l'environnement à la fois inédite, jamais vue auparavant, et puis irréversible. Et ça justifierait de réorganiser les récits historiques, la manière d'appréhender les choses, d'agir, de comprendre tout ça. Et aussi l'échelle à laquelle il faudrait essayer de comprendre les choses. Est-ce qu'il faut encore s'intéresser à l'histoire politique, événementielle, etc. Ou est-ce que ça n'a plus de sens parce que, précisément, les choses sont à une autre échelle. Voilà. Donc ça, c'est une catégorie qui est très importante dans ce récit. Et puis, il est souvent articulé à un autre récit qui reprend quelque chose qui s'est forgé, en gros, dans les années... qui s'est vraiment constitué au milieu du XXe siècle, dans les années 30 à peu près, autour de la notion de révolution scientifique, l'idée qu'au XVIIe siècle, l'Occident aurait connu un grand partage entre nature et culture, ou entre nature et société, ça dépend des auteurs, qui aurait eu des effets environnementaux délétères. Et en général, on mobilise pour ça, pour essayer de diagnostiquer ça, on utilise comme repère un texte qui est régulièrement utilisé, qui est le texte de Descartes, le discours de la méthode, et notamment la sixième partie. Je vous recite le fameux passage qu'on cite très souvent, où il oppose la philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles à une philosophie pratique, par laquelle, je le cite, « connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » La formule est fameuse. Mais donc Descartes serait ou bien le responsable, ou bien l'indicateur, au moins, de ce grand basculement de l'histoire occidentale à partir duquel l'homme aurait commencé à exploiter vraiment la nature. Voilà. D'où la question qui est de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ce discours ? Comment est-ce qu'on peut essayer de prendre à la fois l'interroger et voir d'où il vient ? Alors, vous prendrez deux ouvrages qui peuvent permettre de spécifier un petit peu ce grand récit. Deux ouvrages qui, en plus, se citent mutuellement et dont les auteurs ont beaucoup, par moments, échangé. Un ouvrage de Bruno Latour qui date de 1991 qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes, essai d'anthropologie symétrique ». Et puis, le livre de Philippe Descola, professeur au Collège de France, qui s'intitule « Par-delà nature et culture » et qui est édité une quinzaine d'années après, en 2005. Et en gros, pour l'un comme pour l'autre, l'idée d'un grand partage est part d'un diagnostic critique. Il s'agit précisément de remettre en cause un grand partage. Voilà. Alors, pour Bruno Latour, en gros, il y aurait un grand partage. Alors, ils sont tous deux anthropologues, avec des perspectives très différentes, venant d'horizons très différents de l'anthropologie. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse, mais ce croisement est intéressant aussi parce que précisément ils viennent quelque part de positions à front renversé. Donc pour Bruno Latour, il constaterait un grand partage qu'il nomme extérieur entre eux et nous. Donc ça, c'est en tant qu'anthropologue, entre les sociétés occidentales et les autres. Qui serait pour lui l'exportation de ce qu'il nomme un grand partage intérieur entre les humains d'un côté et les non-humains de l'autre. Et il affirme ainsi, nous les occidentaux ne pouvons être une culture parmi d'autres puisque nous mobilisons aussi la nature. Donc c'est à travers cette exploitation de la nature que précisément se manifesterait la spécificité de la société occidentale. Et pour lutter contre ces deux grands partages, Il propose ce qu'il appelle un grand rapatriement, donc un grand rapatriement versus grand partage, où il ne suffira pas à l'ethnologue d'étudier chez lui ce qui ressemble le plus à ses objets anthropologiques, c'est-à-dire la médecine populaire, etc., mais les sciences et les techniques. Comme il le dit, pour lui, il n'y a plus de culture différente ou universelle, qu'il n'y a de nature universelle, il n'y a que des naturcultures au pluriel, qui sont semblables en ceci, qu'elles construisent à la fois les êtres humains, divins et non humains. Donc il n'y aurait pas de grand partage, ce serait une faute de lecture. Alors pour Philippe d'Escola, quelque part, c'est une critique de sa propre discipline qu'il encourage, Bruno Latour également, hein, quelque part, puisque pour lui, l'anthropologie aurait été partie prenante d'une ontologie générale et typiquement occidentale qu'il appelle le naturalisme, et qui est défini comme une manière de répartir les continuités et les discontinuités entre l'homme et son environnement, qui rattacherait au non-humain par les continuités naturelles et qui nous séparerait par l'aptitude culturelle des non-humains. Donc on serait, en tant qu'être naturel, rattaché au non-humain et en tant qu'être culturel, rattaché aux humains. Le culturalisme anthropologique, voilà ce qu'il critique, puisque c'est ça qui serait générateur de ce qu'il appelle le naturalisme. Et donc, tous deux critiquent cette tendance en proposant chacun, l'un comme l'autre, des solutions différentes. Mais en tout cas, tous deux proposent un récit qui, pour le coup, relève d'une histoire avant tout qui est une histoire des idées et qui contribue à faire de la modernité occidentale une période à la fois longue, homogène, et qui serait marquée par une seule vision du monde. Donc il y aurait une grande vision du monde, qui serait ce grand partage, qui organiserait un peu la manière qu'on a d'appréhender les rapports entre humains et non-humains. Alors évidemment, la grande difficulté quand on est historien des sciences, à la fois avec ce grand discours, et puis aussi avec, ça fait partie des difficultés de l'objet, c'est que nous sommes tous aussi partie prenante d'un intérêt pour les questions environnementales et pour la crise environnementale. Donc nous sommes aussi quelque part acteurs et nous avons aussi nos opinions. Comment analyser à la fois ces choses tout en sachant que nos discours sont aussi potentiellement repris par des acteurs, hein. C'est ce qu'on fait par exemple toute une série d'acteurs hostiles à la question environnementale ou par exemple climato-sceptiques, hein, quand ils ont repris précisément des analyses politiques faites par des sociologues des sciences qui, pour le coup, étaient peut-être majoritairement défenseurs de la crise environnementale, mais qui traitaient leur objet indépendamment de leurs opinions personnelles et qui pouvaient être pris contre eux. Donc, d'où la grande difficulté de prendre pour objet cette affaire, puisque, précisément, le risque, c'est toujours d'être instrumentalisé. En même temps, notre pari, c'était de dire, nous livrons des outils qui permettent au moins autant l'autocritique que la critique. Et il nous semble que l'environnement ou la cause environnementale ou la crise environnementale mérite plus que simplement un rabâchage idéologique, qu'au contraire, voir la complexité de l'objet, ce n'est pas le nier, ou ce n'est pas en nier l'urgence, ce n'est pas nier l'urgence de la crise environnementale, mais c'est au contraire la prendre au sérieux davantage. Enfin, en tous les cas, c'est le pari de notre affaire. Alors, comment ensuite rendre compte de cela, on l'a fait en essayant justement de travailler sur la variété des catégories je vous avais remis dans le document que je vous avais distribué, mais ici, là, vous avez l'organisation du livre, les catégories environnementales mobilisées. Et le sens qu'elles ont en fonction des contextes, en fonction des cultures, en fonction des situations. Le sens donné au topic par les chercheurs, les variations d'échelle en fonction des disciplines, des acteurs, des institutions, etc. Les effets de lieu, très importants, je pourrais vous en reparler aussi. Les rapports internationaux, les échanges transnationaux, les facteurs politiques, les facteurs disciplinaires, les facteurs religieux. Tout ça donne à cet objet des configurations et des allures très variées et qu'il faut essayer de comprendre. En tout cas, essayer de saisir un peu ce paysage singulier de la recherche contemporaine qui s'amorce. Alors, pour ça, donc c'est pour ça qu'on a valorisé ce qu'on a appelé une triple entrée, une entrée qui permet de saisir l'émergence de ce qu'on a appelé ces environmental humanities, cette méta-discipline, c'est ce dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Après, une entrée sur les catégories de l'entendement environnemental, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le premier chapitre. Et puis, toute une série d'entrées par discipline, donc de l'anthropologie, en passant par l'histoire, la philosophie, les sciences politiques, l'économie, etc., etc., pour essayer précisément de voir comment à chaque fois ça avait pris forme, comment ça avait cristallisé, comment, quel débat avait eu lieu, quelles controverses, etc. Aussi pour montrer l'hétérogénéité de ces questionnements, etc. Ça nous semblait important de voir que ces questions étaient complexes et qu'elles témoignaient par les débats de cette complexité. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de motifs saillants, récurrents, qui apparaissent par-delà la polyphonie un peu de ces disciplines. Je vais essayer de vous en indiquer quelques-uns. Donc, il y en a un que j'ai déjà mentionné au départ, c'est la question de l'interdisciplinarité. En gros, tous les acteurs de ces nouveaux domaines ne cessent de dire qu'ils veulent rebattre les cartes disciplinaires, passer les frontières entre sciences de la nature et sciences de la société, avec évidemment des partenariats qui varient. Alors il y en a qui disent, bon, bah, il faut que nos partenaires, ce sont d'abord et avant tout les écologues, d'autres vont dire que ce sont parmi les écologues les partisans de telle forme d'écologie ou pas, etc. Enfin, tout ça peut varier. Mais en tout cas, l'idée de l'interdisciplinarité organise cette chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est la question de la matérialité. C'est avec une polysémie là aussi importante. Régulièrement, ce que l'on voit, c'est qu'on invoque l'idée qu'il faut rematérialiser ou prendre en compte la matérialité des rapports humains, des interactions entre l'homme et la nature, etc. Alors, au départ, dans les années 60 et 70, par exemple, c'est ce qu'on trouve chez certains anthropologues américains comme Marion Harris ou en France comme Maurice Godelier, des ethnobotanistes comme André-Georges Audricourt ou Jacques Barrault, de l'historien Worster ou du sociologue Marcel Jolivet. Tous ces gens-là, en gros, articulent une prise de position qui est marxiste avec la revendication d'une matérialité ou de la prise en compte de la matérialité. Donc c'est pour ces milieux-là, d'abord, à travers le marxisme, qu'ils arrivent à ces questions d'environnement. Bon. Cette référence à Marx va petit à petit disparaître, passer au second plan au moins, dans les années 80 et 90. Ce n'est évidemment pas dissociable du contexte politique qui voit la référence à Marx baisser, et l'importance des partis communistes aussi baisser, de manière encore plus massive après 89. Et la chute du rideau de fer, où on interroge à partir de ce moment-là l'idée qu'il y aurait une nature qui existerait indépendamment de l'homme, et où c'est cette question du rapport entre le discours, et les discours humains et sociaux, et la nature qui va être de plus en plus au premier plan. Et là, on interroge l'idée que la nature est en fait une catégorie, de la même manière que l'environnement serait une, etc., qui serait sociale, politique, etc. Et donc, la focale change un peu. Et à partir de ce moment-là, ce sont les usages de la nature qui passent au premier plan. Ce sont les pensées de la nature, les discours sur la nature et la performativité de ces discours, la transformation par les discours de la nature qui passent au premier plan. Avec l'idée que, précisément, elle n'existe pas indépendamment de l'homme. Donc, voilà. Et puis, cette tendance, qu'on a pu appeler post-structuraliste ou constructiviste, va être fortement questionnée à partir de la fin des années 90, où précisément, on va s'interroger sur les limites de ce constructivisme avec l'idée, oui, mais et la nature dans tout ça, elle existe bel et bien, on ne peut pas complètement y renoncer, on peut pas, voilà, c'est pas juste des discours, etc. Et donc, à partir des années 90, il y a un retour à une matérialité qu'on essaye de penser là aussi, en interaction forte avec pour le coup, avec les travaux écologiques, dans le cas d'une reformulation de l'écologie scientifique, qui n'est plus écosystémique, c'est-à-dire qui ne pense plus les choses de manière harmonieuse ou dans un équilibre écosystémique, mais qui pense les choses de manière plus stochastique, plus complexe et moins stabilisée. Et ça, ça va intéresser toute une série de gens qui vont essayer de dire oui, mais il faut remettre au premier plan la matérialité à travers ça, à travers et remobiliser les travaux des écologues, mais une matérialité qui n'est pas stable, harmonieuse, équilibrée, etc. Voilà. Et donc ça se fait à un moment, si vous voulez, en gros entre le milieu des, enfin entre fin des années 90 et nos jours, et la mobilisation de la catégorie de l'anthropocène entre là-dedans. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous expliquer un peu, ça c'est assez important. En gros, selon nous, il y a un événement intellectuel qui est très important, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans les années 90, a eu lieu ce qu'on a appelé une supercherie. Un physicien qui s'appelait Alan Sokal a publié un texte dans une revue de critique littéraire qui s'appelait Social Text ou de Cultural Studies, comme on dit aux États-Unis, ce qui est plus large que la critique littéraire. Donc ce physicien qui s'appelait Alan Sokal a écrit un texte qui est parodique, mais qui répondait à un appel à communication de cette revue et dans lequel il montrait qu'en réalité, la physique quantique permettait de démontrer qu'effectivement, il n'y avait pas de genre, que la nature était elle-même construite, etc., en fourbissant toute une série de références fausses ou farfelues aux grands auteurs de ceux qui avaient été importés aux États-Unis autour de ce qu'on appelle la French Theory, donc Jacques Derrida, Bruno Latour, etc. Et puis un mois après, donc le texte a malheureusement été accepté par la revue en question, publié, et puis un mois après la publication, dans une autre revue, il a publié un démenti de son texte en disant, mais voilà, c'était une supercherie, mais c'était pour dénoncer le fait qu'un certain nombre de membres des cultural studies anglo-saxonnes, quelque part, faisaient n'importe quoi. Et donc, dans ce contexte, l'idée, c'était de dire, ben voilà, non seulement ils font n'importe quoi, bon, c'est déjà pas une bonne chose, mais en plus, ça a un gros impact politique, c'est-à-dire qu'ils oublient précisément des vrais engagements qui consistent à dire qu'effectivement, en disant en permanence que nous sommes que dans du discours, nous perdons de vue qu'il y a des rapports de force matérielle, qu'il y a des conditionnements économiques, etc., etc. Donc en gros, c'était une sorte de gauche contre une autre gauche, c'est-à-dire une gauche plus, on va dire, traditionnelle contre une gauche plus déconstructiviste qui s'affirmait et qui voulait reprendre le haut du pavé. Et donc, il y a eu une querelle qui a eu des échos internationaux très importants, hein, qui a donné lieu à un ouvrage de Alan Sokal avec un collègue belge qui s'appelle Jean Bricmont, qui s'appelle Imposture intellectuelle, publié en 1997. Tout ça a fait beaucoup de bruit à l'échelle internationale. Et même s'ils n'étaient pas directement mis en cause, les gens qui travaillaient sur ce qui ne s'appelait pas encore les environmental humanities, quelque part, ont été questionnés par ça, notamment parce que certains de leurs auteurs fétiches, comme Bruno Latour, étaient directement critiqués. Et dans ce contexte-là, d'où l'idée de dire, bon, ben, on ne peut plus simplement rester à ce type de déconstruction de la nature, il y a bien une nature, elle existe bien, etc. Et surtout, le risque, c'est qu'en perdant de vue la nature, on va finalement abonder dans le sens de ceux qui, des technologues, qui disent que finalement, des férus de technologie, qui disent que finalement, la nature, ça se remplace toujours, on peut faire des OGM, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, tout est culture, pourquoi pas faire des OGM plutôt qu'autre chose. Mais c'est une vraie question. Enfin, je ne sais pas si voilà, c'est une vraie difficulté. Donc, d'où ce retour à la matérialité, mais une matérialité qui ne pouvait pas être complètement naïve non plus, puisqu'il y avait eu toutes ces réflexions avant. Donc voilà. Donc ça donne un peu une scansion de cette histoire déjà. C'est ce que j'essaie de vous montrer entre une première période, une période déconstructiviste, une première période plus marxiste, une deuxième période plus déconstructiviste, et puis actuellement un regain sur la matérialité. Peut-être qu'à titre de référence, vous pouvez certains ont peut-être entendu parler d'un auteur indien d'origine qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, qui a publié dans les années 90 un texte qui s'intitulait Provincializing Europe, qui est traduit en français, Provincialiser l'Europe, qui était un historien qui venait de ce qu'on appelle les subaltern studies, c'est-à-dire un groupe d'historiens indiens qui avait vocation à déconstruire l'histoire coloniale indienne. En gros, qui disait que l'histoire indienne avait été écrite uniquement dans l'esprit des colons et qu'il fallait donc la déconstruire. Et pour ça, il fallait regarder le point de vue des indigènes, avec des guillemets évidemment, et le point de vue des acteurs locaux. Et d'où l'idée de subaltern studies, donc des populations subalternes, c'est-à-dire mises en situation subalterne et dominées. Et ça a donné, c'est un courant qui s'est développé à partir des années 70, très fort, d'abord en Inde, puis ensuite au retour, au bercail de la colonisation en Grande-Bretagne, etc., puis ensuite qui a essaimé un peu partout. Et donc Chakrabarty est quelqu'un qui a participé de ce courant, et qui donc publie ce texte dans les années, fin des années 90, qui s'appelle Provincializing Europe, qui va tout à fait de bon sens. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'était de dire, bon, il faut arrêter d'écrire une histoire eurocentrée, il faut essayer de comprendre la complexité du monde, etc. Bon. Et puis, bizarrement, une dizaine d'années après, il publie en 2009 un texte, quatre thèses sur le climat et l'histoire, où il prend des positions qui semblent complètement à front renversé, où il nous explique que, mais en fait, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Il vous dit, bon, il est quand même un peu embarrassé, il y a toute une série de circonvolutions dans son texte, mais en tout cas, il vous dit, je me suis rendu compte maintenant, avec la crise climatique, que les choses étaient. On ne pouvait pas simplement rester au point de vue des acteurs, il y a des forces qui sont indépendantes des acteurs, qui sont indépendantes de la politique, indépendantes de l'économie, etc., qui sont des forces géologiques et qui forgent l'histoire humaine, et donc il faut en prendre conscience. Et donc, il y a une histoire à une autre échelle qu'il faut construire. Alors évidemment, il savait bien que le risque, c'était qu'on le critique en lui disant « mais vous allez naturaliser les rapports de force, vous allez nous dire « voilà, bah, finalement, tout est nature, etc. » Et là, on a une sorte d'effet pervers inverse de celui que j'avais dit tout à l'heure pour les constructivistes, qui serait de dire, bah oui, mais dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, quelque part. D'où la critique que certains ont émise à l'égard de Chakrabarty en lui disant, oui, mais tu dépolitises la nature et donc tu nous rends impossible toute lutte contre... contre la dégradation environnementale contemporaine. Donc vous voyez un peu la complexité des débats et les cercles vicieux symétriques auxquels sont renvoyés les acteurs assez rapidement. Bon. C'était juste un exemple pour vous montrer un peu comment un même acteur pouvait être passé d'une position à une autre et pour vous montrer l'impact aussi des questionnements de la sphère publique générale sur les réflexions des universitaires. Troisième caractéristique saillant et récurrent, c'est que tous revendiquent l'idée qu'il faut changer les épistémologies, changer la manière de construire la science, et surtout remettre en cause l'anthropocentrisme de toutes ces matières, essayer de penser le sujet de la science différemment, et développer un mode d'approche singulier des choses. Je vous donne juste comme citation un repère hein, d'un manifeste pour une géographie environnementale qui a été publié l'an dernier. Je cite les auteurs, Chartier et Rodary. « En définitive, on entend poser les jalons d'une géographie, non pas de l'environnement comme objet que surplomberait la discipline, mais environnementale en tant qu'elle est elle-même travaillée et transformée par cet objet. » Donc en gros, l'idée, c'est de ne pas développer une géographie qui surplombe l'objet environnement, c'est-à-dire qui reproduirait en gros la domination de la nature par l'homme, et donc le geste cartésien, mais au contraire, le fait que nous soyons affectés par la nature, par cet objet, et que la géographie doit se changer. Et c'est les mêmes débats qu'il y a en économie, par exemple, entre les promoteurs de l'économie de l'environnement, qui font simplement de l'environnement une externalité qu'il faut prendre en compte pour essayer de faire des calculs économiques rentables, et puis l'économie écologique qui dit non, mais attendez, c'est pas une externalité comme une autre. Voilà. Et donc qu'il faut repenser l'économie elle-même à l'aune, alors plus ou moins, il y a des degrés différents dans l'économie, Voilà. Donc ça c'est un facteur très important. Et puis, quatrième motif saillant, c'est celui qui redouble un peu le précédent, c'est-à-dire celui d'une démarche qui serait sensible à la question des perspectives à la fois culturelles et sociales des acteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questionnements. Et c'est là où s'articulent les humanités environnementales avec les études dites postcoloniales, c'est-à-dire fondées dans un, justement, comme dit Paresh Chakrabarty par exemple, dans un questionnement sur la manière qu'ont eu les sciences sociales en fait d'épouser le point de vue colonial, avec une critique en disant mais finalement les sciences sociales ce sont des sciences sociales modernisatrices, planificatrices, qui reconduiraient le geste cartésien dans des territoires qui ne sont pas occidentaux. Et contre ça, il faudrait faire valoir le point de vue autochtone, le point de vue culturel, etc., etc. D'où l'idée que mobilisent certains de cosmologie alternative. Ça se trouve en anthropologie, en political ecology, en ethno-écologie, etc. Et donc, il y aurait à penser le caractère divers des manières, des visions du monde. C'est quelque part aussi le projet de Philippe Descola avec ses ontologies variées. Cinquième élément, c'est que la plupart de ces chercheurs, et ça, ça travaillait un peu ce que je vous ai dit avant, c'est que ces chercheurs sont souvent des militants aussi. Et donc, leur question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que nous sommes aussi engagés par ailleurs ou parallèlement ou articulés de manière plus ou moins implicite ou plus ou moins explicite, engagés dans la lutte pour la cause écologique. Et donc, voilà, vous avez là un problème qui se traduit par des options assez diverses. Vous en avez certains qui optent pour une option qu'on pourrait dire environnementaliste, c'est-à-dire de mettre au premier plan l'environnement et la défense de l'environnement. Et puis à ça s'oppose une autre optique qui est de dire oui, mais la priorité, c'est quand même une celle de justice sociale. Et c'est des problèmes qui sont cruciaux. C'est ce que vous voyez, par exemple, si vous regardez les travaux de Guillaume Blanc, avec qui notamment j'ai fait ce volume, sur les parcs nationaux en Éthiopie, où ce qu'on observe, c'est que le WWF, en finançant et en aidant financièrement le gouvernement éthiopien, a mis en place des parcs nationaux, mais que évidemment les parcs nationaux ne peuvent fonctionner que si on chasse les populations locales qui sont considérées comme perturbatrices de l'environnement. Donc on a une politique conservationniste où l'homme devient persona non grata et où on a des violences faites aux populations locales. Voilà. Et il y a actuellement une plainte qui a été faite, émise auprès de l'OCDE, justement, à ce propos-là, parce qu'il y avait eu des violences très importantes faites à l'égard de ces populations. Et d'où la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège l'environnement? Quel environnement? Selon quelle conception? Est-ce que ces populations sont véritablement des nuisances pour l'environnement? Comment est-ce qu'il faut concevoir ce rapport? Est-ce qu'il faut simplement les éduquer et leur faire comprendre que ce n'est pas ça l'environnement? Ou est-ce qu'il faut aussi peut-être apprendre un peu de leur manière de comprendre les choses pour essayer de voir s'ils n'auraient pas eux aussi quelque chose à nous apprendre sur l'environnement ou sur les environnements? Il faudrait mettre tout de suite environnement au pluriel, etc. Bon. Donc voilà, c'est juste un cas, mais pour vous montrer la difficulté de l'objet. Voilà. Et l'implication que ça... Autre exemple peut-être que je pourrais vous donner, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très caractéristique de tout ça, c'est une notion qui est la wilderness. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, c'est une notion anglo-saxonne, donc qui date du 19e siècle, qui en gros renvoie à l'idée de nature sauvage, sublime, transcendante à l'homme, avec toute une dimension de sacré et de religiosité. Et elle a fait l'objet d'une analyse très intéressante. Enfin, je vous conseille de lire le livre, mérite toujours d'être lu, un livre de Roderick Nash sur la wilderness et l'esprit américain. Et cet ouvrage était celle d'un historien de l'environnement, un des tout premiers historiens de l'environnement et de l'histoire des parcs américains. C'est une histoire très importante, hein. mais qui était aussi un écologiste convaincu et qui, précisément, avait retracé donc, ce qu'il considérait comme un concept central de l'esprit américain, cette wilderness. Et à l'époque, ça pouvait apparaître vraiment comme un modèle de la conservation de l'environnement, précisément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 30 ans de distance, vous avez toute une série de publications, notamment celle de William Cronon ou de Roderick Newman, qui interrogent au contraire la wilderness et qui disent, mais voilà, ça c'est typiquement le prototype d'un concept occidental qui est à l'origine d'une forme sanctuarisée de la nature, qui exclut les hommes des paysages, et qui, en plus, ayant été exporté tout autour du globe, étant donné la puissance américaine et le modèle implicite que véhicule le monde américain, a généré le type de problème dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait voilà, quand on a ce genre de situation. Ensuite, évidemment, il y a des spécificités disciplinaires. J'en retiendrai juste une, peut-être pour vous rendre sensible à ça. C'est celle du droit. Le droit, c'est un cas vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on on s'est efforcé d'avoir un chapitre là-dessus, parce que s'il y a peut-être une discipline où cet objet environnement apparaît comme un ovni, c'est le droit, parce que précisément tout le droit est forgé autour de cette notion d'imputation des droits et donc implicitement de conscience. C'est-à-dire que est sujet de droit celui qui est potentiellement doté d'une conscience ou qui est doté, dont on suppose qu'il est doté d'une conscience, sans quoi le droit ne peut pas être appliqué. D'où la question de savoir mais comment est-ce qu'on peut inventer un droit d'autre chose que de l'être humain. Est-ce que c'est simplement il faut élargir au non-humain l'imputation de conscience ou comment est-ce qu'on fait ? Et donc là, il y a eu d'énormes réflexions au sein du droit pour essayer, par un certain nombre d'acteurs, pour essayer de faire valoir justement ce que serait un droit de l'environnement dans des cadres intellectuels qui paraissaient complètement rétifs à l'idée même de droit de l'environnement. Alors évidemment, là je vous ai parlé, c'est quelque part ce que je vous ai tracé, c'est une histoire essentiellement anthropocentrée ou sociocentrée de l'émergence de ces domaines. Ce n'est pas par cécité ou ce n'est pas par idée que les facteurs environnementaux n'auraient pas eu un rôle. Ils ont eu un rôle. Je pense que le travail est encore à mener pour essayer d'approfondir ça. C'est ce que j'ai un peu essayé de vous dire au départ quand je vais mentionner le cas de l'Australie, cette terre dans laquelle précisément avaient émergé ces environmental humanities et précisément dans laquelle ça avait particulièrement reçu l'écho. Je pense que c'est indissociable du fait qu'il y a un rapport à l'espace naturel qui est évidemment très important, et puis évidemment toute une série d'événements environnementaux ont régulièrement scandé cette histoire et ont rebattu un certain nombre de cartes. Alors, la société du risque d'Ulrich Beck a été publiée avant Tchernobyl, mais évidemment l'impact du livre a été majoré par le fait que quelques mois après, la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu. Donc voilà, typiquement, donc c'est pas la poule et l'œuf, mais en tout cas, il y a eu un effet catalyseur à ce moment-là. Et on pourrait multiplier, et Fukushima a eu aussi un impact sur ces affaires. Donc ce ne sont pas simplement des affaires, évidemment, uniquement académiques, universitaires, intellectuelles, c'est aussi des affaires qui ont un lien avec la sphère publique, c'est ce que je vous disais, mais aussi avec des faits environnementaux, très lourds. Il y a peut-être un ouvrage dont j'aurais dû vous parler qui dans cette histoire a eu un rôle je pense très important, c'est le cas par exemple en histoire environnementale qui fait partie des premières disciplines qui vont commencer à essayer d'aborder cette question de l'environnement. C'est le livre de Rachel Carson qui s'appelle Silent Spring, publié en 62, qui a été vraiment un événement et un catalyseur de la réflexion sur ces questions, où là l'hypothèse précisément que de destruction de la nature a été, par le biais de la fiction, a eu un écho énorme. Voilà. Alors ça, c'est pas un fait environnemental, mais ça traduit en tous les cas une prise de conscience environnementale. Alors peut-être pour laisser un peu de place à la discussion, je dirais quand même quelques petites choses en conclusion de cette présentation générale. La première, c'est que c'est un champ qui rencontre, comme tous les champs où on essaie de franchir ses frontières, la difficulté qu'il y a à travailler de manière interdisciplinaire. Et ça se voit tous les jours, enfin, quand on travaille avec des écologues, c'est un vrai défi pour nous comme pour eux, c'est-à-dire d'essayer de voir en quoi est-ce qu'on peut s'apprendre des choses et comment c'est d'apprendre, comment on peut mutualiser les choses sans réduire l'objet, la complexité de l'objet, tel qu'on peut l'appréhender spontanément. Et ça, c'est une vraie difficulté qu'il faut pas nier. Et puis qui est lié aussi au fait qu'on ne vit pas du tout dans les mêmes mondes. Un écologue, c'est d'abord quelqu'un qui est formé dans le monde de la biologie, qui est un monde très particulier, mais aussi un monde de la biologie où il est un peu marginal, puisque l'écologie est une sorte de réaction à la biologie et que la spécificité de l'écologie s'est majorée, a été majorée par le fait que l'avènement de la biologie moléculaire dans les années 60 a fait que le modèle expérimental en biologie est devenu la norme et que donc, évidemment, l'écologie, en disant qu'il faut faire des enquêtes de terrain, qu'on ne peut pas séparer l'analyse d'un phénomène biologique de son environnement, etc., voire de voir l'interaction avec les hommes, etc., tout ça ne peut pas être anodin. Et bien précisément, ça fait que l'écologie, elle est un peu entre deux. Elle se revendique parfois de science de terrain, mais en même temps, elle a sa formation initiale en biologie. Donc, voilà. Et puis de l'autre côté, ceux qui, parmi les promoteurs des humanités environnementales en sciences de l'homme et sociales, le font, eh bien, ils ont toujours le risque d'être taxés précisément de naturalisation des phénomènes. Or, ce qu'on apprend d'abord dans les sciences humaines et sociales, c'est que les faits sont construits, sont politiquement déterminés, sont socialement construits, etc. Et que donc, il y a une historicité des phénomènes humains et sociaux qu'on peut pas nier. Et donc, quand on réinjecte du naturel là-dedans, la critique, elle vient très vite de dire oui, mais la spécificité des sciences humaines et sociales est bradée à ce coup-là. Et tout. Ça se voit très bien, par exemple, en sociologie de l'environnement, où les promoteurs des sociologies de l'environnement ne cessent de dire « oui, mais non, nous ne faisons pas du biologisme, etc. », qui fait partie des insultes suprêmes en biologie. Voilà. Alors, je pense que, d'expérience, là, après avoir traversé avec les auteurs l'ensemble de ces domaines, ceci se répète. Hein, ça, c'est un point aussi récurrent, c'est-à-dire de toute cette histoire. C'est la complexité de la position situé à la charnière entre deux mondes, qu'ont ces acteurs qui veulent essayer de travailler à renouer des liens entre des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes disciplinaires, n'ont pas les mêmes budgets, parce que ça n'a rien à voir, les budgets d'un laboratoire de biologie et d'un laboratoire, même d'écologie, et d'un laboratoire de sciences humaines et sociales, etc. Enfin, tout genre de facteurs qui paraissent peut-être un peu anecdotiques, mais qui sont structurants pour le fonctionnement de la recherche. Et puis, évidemment, les hypothèses hypostémologiques, ce dont je parlais, l'historicité, le caractère social des phénomènes qu'on étudie, ou pas, ou leur caractère naturellement, d'abord naturel. Voilà, en gros, ce qui ressort un peu, mais je vous laisse poser des questions. Voilà, c'est plus un chantier qu'une réalisation finie, achevée.
Donc, des questions.
Donc, merci pour cette présentation que je découvre complètement. Hein, c'est le titre qui m'a attirée, Humanité environnementale. Comme je ne connaissais rien, j'ai tout découvert. Ma question, elle est justement dans Humanité. Vous avez introduit justement en expliquant quelque part et on le ressent. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé quand vous avez dit le geste cartésien, c'est-à-dire qu'en effet, l'homme dominant la nature. Mm-hmm. Dans votre ouvrage, est-ce que vous explorez, justement, parce que je ne connais pas, il y a d'autres... Il y a des groupes de, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui ne vivent pas dans cette relation de domination ou pas, ou historiquement. Enfin, moi, je travaille en santé, mmh. et en santé justement liée à l'environnement. Mmh. Et si je vous pose cette question, c'est parce que justement la notion que l'environnement de vie des gens, si vous voulez, interfère sur la propre santé, ça amène à prendre conscience aux gens. C'est là où je vous demande si vous avez fait un travail dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'humain, au sens large, donc voilà, du lien, c'est-à-dire indissociable, de l'homme à sa planète, quoi, je veux dire. Donc c'est une question, hein, je n'ai pas de réponse. Mais vous avez présenté donc, la pensée cartésienne. En effet, l'homme domine. Mm-hmm. Mais s'il domine et qu'il détruit en même temps, il n'y a plus rien. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dans vos travaux vu émerger voilà, des réflexions autour de ça? Bon, excusez-moi sur la question qui est un peu floue.
Mais... Non, mais c'est... Non, mais bien sûr, ça traverse tous ces questionnements. C'est-à-dire de dire il y a un caractère abstrait à saisir l'homme indépendamment de son environnement. C'est l'antidualisme de base, hein, qui est à la base de la réflexion de tout cet ensemble de recherches, parce que ce n'est pas quelque chose d'homogène, etc. Mais c'est peut-être un facteur commun, ça c'est sûr et certain. Et essayer de dépasser justement une vision de l'homme comme dissocié, une sorte de cerveau sur pattes, etc. Donc avec toute la dimension aussi complexe de l'homme qui apparaît à travers la question des émotions, etc., et implicitement et explicitement la question du rapport à l'environnement. Et sur le cas de la santé, c'est très net. Voilà, toutes les questions relatives à effectivement à l'interaction entre santé et environnement, et au fait qu'on ne peut pas traiter ces questions de santé indépendamment des situations environnementales dans lesquelles se trouvent les patients est une question qui revient beaucoup, mais de manière générale, je vais dire, à travers tous ces domaines de la recherche, justement, se fonde là-dessus, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais se fonde là-dessus sur un présupposé anti-idéaliste, anti-dualiste, avec l'idée qu'il faut justement essayer de penser l'interaction. Alors après, la question est de savoir comment, à quelles échelles, etc., avec quelle complexité, voilà. Mais en tout cas, que ça n'a pas de sens de le faire, et sinon, on ne saisit pas son objet. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'idée de dire qu'on est aveugle relativement à son objet si on ne fait pas ça.
Donc, on a organisé des journées d'études l'année dernière sur environnement et santé. On en refait une cette année, le 16 mars, donc je donne la pub à le programme à madame. Monsieur, vous avez une question? Il y avait une autre question, non?
Oui, juste trois petites questions, mais très, très courtes et rapides. J'aimerais connaître l'influence des politiques publiques, malgré tout, sur ces recherches, sur ce nouvel objet. Parce que, ben, vous l'avez dit, hein, les budgets ne sont pas identiques en sciences dures ou en sciences humaines. Voilà, donc, comment le financement de la recherche participe à la construction de ce nouvel objet et aussi à des appréciations différentes en fonction des disciplines. Humanité environnementale, est-ce que c'est juste une traduction? Mmh. Ou est-ce qu'il y a des variations du contenu entre le concept anglo-saxon et ce que l'on en fait en France ou plus généralement dans le monde francophone? Voilà, je ne sais pas si c'est aussi la lecture plus attentive de la nature qu'on peut avoir en France. Bon, on sait en Allemagne... que les Allemands sont un peu plus avancés que nous sur ces problématiques. Mmh. Alors, quand je dis les Allemands, c'est plutôt les pratiques citoyennes. Mmh. Et donc, moi, personnellement, je ne connais absolument rien sur la recherche en Allemagne sur cet objet-là. Voilà, mais dans les autres pays d'Europe, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut faire aussi des comparaisons entre la recherche francophone et la recherche en Espagne, en Italie? Et puis, dernière question, c'est, cela concernerait vos outils méthodologiques. Voilà. Et quel corpus vous utilisez? Parce que j'ai eu l'impression que vous interrogez beaucoup le milieu universitaire. Mmh. Mais est-ce que vous tenez compte aussi des recherches qui sont réalisées par, entre guillemets, des experts, mmh. Dont certains, voilà, je pense notamment à un type dont j'ai oublié le nom, mais qui travaille pour Exxon, mmh. et qui en même temps, soi-disant, fait de la recherche et du lobbying pour dire que le réchauffement climatique mmh. n'est pas franchement à l'ordre du jour.
Mmh. Bon. Mmh.
Merci. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Alors, sur les politiques publiques, bien sûr que ça a un rôle et que c'est pour les sciences humaines et sociales aussi une manne. C'est-à-dire qu'il s'agit, elle découvre quelque part, non pas ce qu'est un budget de sciences de la nature, mais quelque chose qui relève quand même d'un autre ordre que ce dont elles ont l'habitude. Ça, c'est la première chose et c'est évident. Même si ce n'est pas non plus colossal, mais au moins de ce point de vue-là, si les politiques publiques en matière d'environnement ne sont pas très impressionnantes, les politiques publiques en faveur de la réflexion sur l'environnement sont pas complètement non tangibles, on va dire. Voilà, ça, c'est la première chose, et ça, c'est effectivement très important. On en parle un peu dans le livre. Alors, sur la question de humanité environnementale, est-ce une simple traduction? Alors, au départ, c'est une simple traduction. C'est vraiment un import, avec tout le caractère un peu étrange que consonne l'expression humanité environnementale, même si, depuis un peu plus longtemps, on a humanité numérique. On a eu, au début du XXe siècle, les humanités scientifiques de Louis Liard. Sauf qu'on a oublié un peu entre-temps qu'il y avait les humanités scientifiques. Mais en gros, l'idée... donc c'est d'abord l'importation d'un registre qui traduit une certaine organisation académique anglo-saxonne avec ce système des undergraduates où on fonctionne à l'échelle d'une School of Humanities. Voilà. Et donc là-dedans, on peut décliner les Digital Humanities, les Environmental Humanities... donc à ce titre-là, c'est vraiment bon. Après, évidemment, en français, tout de suite, ça va connoter. Il y a une dimension morale qui va être connotée peut-être plus fortement, étant donné justement le manque d'habitude de ce vocabulaire des humanités. C'est-à-dire que, comme en anglais, évidemment, cette connotation morale, elle y est au départ. Quand les humanities sont forgées dans les facultés américaines à la fin du 19e siècle, il y a évidemment toute une dimension que ces savoirs ont une volonté à former les têtes, à former les citoyens et à véhiculer des valeurs morales, sans conteste. Simplement, ça s'est tellement institutionnalisé dans le monde américain, c'est devenu un mot tellement qui correspond en gros à ce que nous on appelle les sciences humaines et sociales, sur lesquels on ne réfléchit plus, que voilà. Mais effectivement, quand ça arrive en France, ça arrive sur un terrain où ce n'est pas familier comme vocabulaire. Et donc, je pense qu'effectivement, la dimension morale, et c'est ce qu'on voit par exemple dans Humanité médicale, très fort, peut-être plus encore que dans Humanité environnementale, ou dans Humanité médicale, c'est d'abord l'éthique qui est au centre. L'éthique médicale. Et dans Humanité environnementale, l'éthique environnementale, autrement dit, cette branche de la philosophie qui s'occupe des questions d'environnement, n'est pas forcément au centre. elle n'est pas du tout absente. D'ailleurs, ça a été un des premiers lieux d'émergence du courant. Mais ce n'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense, au moins en France. Voilà. Donc évidemment, ça fait le fait d'importer quelque chose, ça opère des choses, ça joue dans un espace sémantique qui n'est pas le même, linguistique qui n'est pas le même, etc. Alors après, il faudrait regarder de près comment les choses jouent ailleurs où ça a été aussi importé. Alors c'est parfois traduit, parfois pas traduit, parce que aussi le fonctionnement contemporain fait que l'anglais dans certains pays n'est plus traduit. En France, il est encore traduit en humanité environnementale, mais ailleurs il restera environmental humanities, même si on est en Allemagne par exemple. Donc déjà ça fait une grosse différence. Après en Allemagne il y a une ancienneté de réflexion sur ces questions dans les sciences humaines et sociales qui est indéniable, plus ancienne qu'en France, très nettement. Et puis, il y a un gros centre qui est, pour le coup, très financé ou très soutenu par les politiques publiques, qui est le Rachel Carson Center de Munich, où là, on a essayé de bâtir un espace d'excellence, comme on dit maintenant, puisque tout doit être excellent, dans lequel sont censés travailler des gens de manière pluridisciplinaire, qu'ils soient sociologues, écologues, anthropologues, etc., sur ces objets. Voilà. Donc là, il y a un lieu qui a été valorisé par les politiques publiques comme étant un lieu promoteur de ces approches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais voilà, c'est un lieu phare, on va dire. Alors, les corpus... variés. Oui, c'est d'abord un phénomène universitaire et académique. Au moins, ça se traduit tout de suite. Ça se voit tout de suite quand on regarde l'émergence en Australie. C'est vraiment une affaire de School of Humanities, comment ça émerge, etc. Et l'affaire des experts est... les experts peuvent se moquer relativement de ces questions d'étiquetage, etc. C'est pas nécessairement leur objet. C'est-à-dire qu'eux, ils jouent à une autre échelle et qu'émerge ce genre de projet, de domaine de recherche, c'est pas nécessairement central. Ce qui peut être beaucoup plus central, c'est le propos du GIEC, etc. Et donc, leurs partenaires de discussion ou leurs ennemis intimes, ce seront peut-être davantage les experts du GIEC les hurluberlus des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à l'environnement, qui finalement pèsent peu dans cette affaire, dans les décisions de politique publique internationale ou même encore plus internationale, ou dans les climate conferences, les COP 21, 22.
Excusez-moi, il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de sciences sociales dans le GIEC, c'est interdisciplinaire aussi, le GIEC. Hein.
Oui, mais enfin, c'est pas eux qui mènent. Dans le GIEC, c'est pas eux qui sont centraux. C'est d'abord une expertise quand même qui se veut relever de la climatologie, des sciences du climat, etc. Et donc le cœur du métier, enfin le cœur de l'expertise du GIEC et de la légitimité, de ce qui est considéré comme la légitimité du GIEC, ce sont eux. Et donc après le reste est périphérique. Donc je pense que autant cette question des contre-experts, je ne sais pas comment il faudrait les nommer, mais bon, voilà, de ces gens à cheval entre le monde du pétrole et le monde du lobbying, est une vraie réalité pour ces questions environnementales, autant pour les humanités environnementales en particulier. Je ne suis pas sûr qu'ils s'encombrent vraiment d'avoir à critiquer tel ou tel article publié dans telle ou telle revue, voilà, parce qu'ils tapent au-dessus. Donc, voilà. Pas celle-là, mais très certainement. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est pour ça que je disais que le cœur du métier du GIEC et le cœur de sa légitimité, elle n'est pas là. Mais de toute façon, on sait bien que dans le rapport de force entre les sciences et les politiques publiques, la balance ne penche pas en direction des sciences humaines et sociales. C'est pas seulement parce que les dispositifs expérimentaux coûtent horriblement cher ou les appareillages coûtent horriblement cher en sciences de la nature que les sciences de la nature sont davantage financées. C'est aussi parce que voilà, on considère que la science, c'est de ce côté-là qu'elle se situe. Donc, je pense que ça n'est que traduire un peu ce rapport de force Voilà, une inversion qui, en gros, a eu lieu depuis une centaine d'années et qui, à mon avis, ne sera pas renversée par les humanitarians. Donc, on est quand même, peut-être que j'aurais dû le dire, hein, dans un espace, par rapport à ces questions d'environnement, relativement marginal. C'est sûr. J'aurais peut-être dû le dire. Dans la galaxie, on va dire, si ça devait être une galaxie, on serait
oui, mais
à la marge.
Les gens qui travaillaient sur les droits des animaux, etc., étaient marginaux. On voit maintenant quand même qu'il y a un changement de société qui s'opère à travers tous les philosophes qui sont d'ailleurs venus chez nous, les derniers ouvrages de Corinne Peluchon, etc. On vous souhaite la même chose parce qu'il y a une légitimité dans cette recherche.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi d'autres canaux que peuvent emprunter ces acteurs, hein, des humanités environnementales. Et d'autres visibilités qu'ont peut-être pas les sciences de la nature, qui est toute cette visibilité liée à la sphère publique, à l'accès aux médias, etc., qu'ont de fait beaucoup moins les sciences. Ou en tous les cas, les sciences, tant qu'elles se mettent pas à la vulgarisation, sans parler d'Edwin Klein, mais en tout cas... en parlant de tous ces biologistes, etc., qui ont aussi vocation ou qui souhaitent faire advenir la figure du savant prenant position dans la sphère publique. Ça existe aussi, mais c'est...
Oui, on a eu Axel Kahn il n'y a pas longtemps.
Voilà.
Moi, c'est vrai que ce sont
toujours les gens qui sont sollicités.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, pardon, excusez-moi. J'accaparais la parole.
Merci. Non, justement, vous parliez de vulgarisation et je rebondis là-dessus. Est-ce que vous... Je me demandais si vous aviez envisagé par la suite de prévoir des publications peut-être sous un format plus accessible, par exemple, justement parce que cette pluridisciplinarité-là est très révélatrice du fait qu'on a forcément besoin pour étudier un sujet comme celui de l'environnement, de plein de scientifiques différents qui travaillent ensemble, et justement aussi parce que ça nous concerne tous, et que finalement, je pense que ça aurait beaucoup de sens de le rendre du coup très visible. Et comme on parle justement du clivage entre politique publique, intellectuelle, et encore plus entre intellectuels de sciences humaines et sciences dures, est-ce que vous avez pensé à cette question-là, de comment vulgariser cette future parution.
Très bonne question.
On vient de travailler 3 ans sur ce projet. Quand on l'a imaginé, c'est vrai qu'on l'a imaginé d'emblée à plusieurs voix, avec l'idée qu'on faisait un pari aussi sur l'intelligence du lecteur et son sens à appréhender la complexité. Notre idée était d'essayer de proposer quelque chose qui fournisse des clés. Et notre auditoire initial, c'était des étudiants de master. Voilà. Donc, en gros, c'était ça le public qu'on avait, celui auquel on était habitué. Alors, ce n'est pas le grand public, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas non plus le public des pairs uniquement. Ce n'est pas un public très, très ésotérique. Hein, bon. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un pas de plus. Et ce serait intéressant de le faire. Je pense que pour nous aussi, on apprendrait beaucoup à ça. Et je pense qu'on serait d'autant plus à même de le faire qu'on a fait ce travail antérieurement. Qui nous éviterait de faire une mauvaise vulgarisation, parce que je pense que c'est un vrai art, la vulgarisation, que c'est ça s'improvise pas, et que pour le faire il faut beaucoup de travail en amont. Donc je dirais, j'aurais envie de dire chiche, et oui, ça m'intéresserait bien de le faire. Je pourrais en parler à mes collègues si voilà. Bon, je pense que quand même de 10, on reviendrait quand même à 3 voix parce que ça n'aurait pas de sens de le faire seul. Mais en tout cas, oui, et effectivement, il pourrait y avoir, on pourrait imaginer un que sais-je, voilà, sur la question. Mais ce qui est assez amusant, c'est que, voilà, pour la petite histoire, quand on a commandé les chapitres aux uns et aux autres, on a commandé des chapitres de 60 000 signes. Alors, on s'y est à peu près tenu, nous. Tous les auteurs ne s'y sont pas tenus. Et ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas s'y tenir, c'est juste parce que certains nous ont dit « mais la matière est immense ». C'est-à-dire, et donc là, il y a un effet compliqué de tropisme ou de prisme qui fait que quand on est dans la matière, voilà, on est aussi myope et on voit tous les gens qui travaillent là-dessus. Et puis quand on est très extérieur, on se dit « oulala, mais qu'est-ce que... » Voilà. On a au total 50 pages de bibliographie avec l'idée que ça doit servir de référence. C'est pour ça qu'on a fait un index des notions, un index des noms, etc. Et que ça se veut vraiment un outil. Voilà. Et ça... Enfin, voilà, après, je laisse le lecteur juge de savoir si ça remplit sa fonction ou pas. Mais ça a été, je pense que ça a été un vrai exercice compliqué aussi pour nous tous que d'écrire ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail d'écriture, mais c'est un petit défi. Et on arrive à ce que j'ai appelé les motifs saillants ou récurrents à la fin. Et donc là, je pourrais vous dire, oui, maintenant, peut-être qu'on se sentirait à même de faire ça. Mais par contre, je pense que si on avait fait les choses en sens inverse, si on était parti d'un 128 pages, comme on dit dans le monde de l'édition, ça aurait été du massacre. Voilà. Bon, mais peut-être que je suis trop scrupuleux, mais je pense que... voilà. Et puis, il y a plein de choses, plein de lacunes. Hein, je n'ai pas dit ça, mais j'aurais dû le dire d'emblée. Il y a évidemment plein de lacunes, plein de manques, plein de choses qu'il faudrait compléter, etc. Mais là, on laisse nos lecteurs aussi nous dire, voilà, mais vous n'avez pas parlé de ça, etc. Il y a un chapitre qu'on n'a pas fait parce que c'est les humanités environnementales, mais qui serait à écrire, qui serait celui du point de vue inverse, c'est-à-dire du point de vue des écologues, qu'est-ce qu'il en est de cet espace ? Est-ce qu'il existe pour eux ou pas ? Comment est-ce qu'ils voient les choses, etc. Et comment s'est configuré les rapports homme-nature dans le champ de l'écologie ? Et ça, c'est un vrai dossier encore. Et c'est compliqué à écrire aussi parce que... voilà. Mais c'est vrai qu'on... Par exemple, ça n'y est pas. Alors, pour nous, c'était justifié parce que, justement, on avait appelé ça l'humanité environnementale et qu'on s'est rendu compte tout de suite que c'était un mouvement qui affectait uniquement les sciences humaines et sociales. Mais si on veut s'intéresser au rapport, à la manière dont on a appréhendé les rapports homme-nature, ce serait évidemment passionnant de regarder aussi de ce côté-là, étant donné aussi la diversité des positions au sein de l'écologie. L'écologie, c'est pas du tout un monde homogène hein, où tout le monde pense pareil. Dieu soit l'est d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est très bien. Mais...
Pour information, le livre de Carlson vient d'être réédité avec une nouvelle préface. C'est peut-être intéressant de.
D'accord, je savais pas.
J'ai appris ça.
D'accord.
Donc ouais, la traduction française, c'est le printemps.
Silencieux.
Le printemps.
Silencieux.
Silencieux, voilà. Très, très beau livre, Printemps silencieux.
Oui, qui mérite vraiment d'être lu.
Enfin, oui, oui.
Il y en a d'autres dans ce
livre charnière.
Oui.
Donc, je voulais dire, c'était une conférence organisée avec l'école doctorale Sciences de l'Homme. Donc, je remercie aussi aux étudiants d'être présents, puis à notre public. C'était passionnant. On a eu la primeur, je vous remercie beaucoup. C'est toujours intéressant. C'est à Poitiers que ça se passe, vous voyez. Merci beaucoup, monsieur. À plus tard. Au revoir.
Merci.